bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la recherche du juste prix.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Imaginez un monde dans lequel personne ne payerait jamais le même prix. Les tarifs se transformeraient en permanence en fonction de l'endroit où vous habitez, de l'état de la batterie de votre téléphone ou de la fréquence de vos achats en ligne. Cette pratique existe depuis longtemps, mais elle prend aujourd'hui une ampleur inédite. Une étude américaine a montré qu'Amazon changeait ses tarifs plus de 2 millions de fois par jour. Est-ce à dire que le prix ne reflète pas tant la valeur d'une marchandise que les besoins et les désirs des consommateurs? La question continue de diviser les économistes. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons traquer les prix sur les sites de vente en ligne en compagnie de Philippe Moatti, économiste, professeur à l'Université de Paris et cofondateur de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, en compagnie également de David Kella, en duplex du Mans, économiste, maître de conférence à l'Université d'Angers, auteur de L'économie du réel face au modèle trompeur paru aux éditions De Bock Supérieur. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Philippe Moatti et David Kella, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la question de la fixation du prix, c'est une question qui traverse l'histoire de la pensée économique. Les économistes libéraux en particulier se demandent dès la fin du XVIIIe siècle ce qui détermine le prix, David Kella.
Oui, parce que en fait, évidemment, la question du prix est une question au cœur des réflexions des économistes, puisque derrière le prix, bien sûr, il y a la question du juste prix, de quel est le véritable prix des marchandises, et aussi, évidemment, la question du prix détermine la question des revenus. Et donc, les économistes, notamment Adam Smith, quand il essaie de construire une réflexion qui d'ailleurs part de questions morales, hein, puisque s'il est professeur de philosophie morale à la base, eh bien, il essaie de s'interroger sur finalement qu'est-ce qui est au cœur du prix. Et du coup, il cherche à essayer de déterminer une théorie de la valeur, hein, parce qu'en fait, du point de vue économique, si on veut expliquer les prix, il faut d'abord essayer de comprendre d'où ils viennent et donc qu'est-ce qui est fondamental dans le prix.
Et ça, c'est une question, on va faire intervenir simplement Philippe Moatti, une question qui traverse vraiment la pensée économique et qui a donné lieu à un certain nombre de débats.
Oui, alors la question du prix est centrale en économie. Là où il y a eu des fluctuations, c'est sur la question de la valeur. Est-ce que le prix est reflet de la valeur? Ça, c'est la position des économistes classiques. Et on s'est tellement écharpé sur la question de la valeur, qui est une question tellement compliquée, que finalement, notamment les économistes néoclassiques ont finalement abandonné cette idée. Le prix obéit un certain nombre de déterminants, mais on ne cherche pas un sous-jacent immanent qui serait la valeur, l'introuvable valeur.
Quoi. Alors on va s'arrêter sur cette question de la valeur. Je vais vous donner la parole, David Kella, mais simplement, je voudrais qu'on entende, pour commencer, une lecture de La richesse des nations d'Adam Smith, publiée en 1776, lue par donc Aliette Ovin de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Il faut observer que le mot valeur a deux significations différentes. Quelquefois, il signifie l'utilité d'un objet particulier, et quelquefois, il signifie la faculté que donne la possession de cet objet d'acheter d'autres marchandises. On peut appeler l'une valeur en usage, et l'autre valeur en échange. Des choses qui ont la plus grande valeur en usage n'ont souvent que peu ou point de valeur en échange, et au contraire, celles qui ont la plus grande valeur en échange n'ont souvent que peu ou point de valeur en usage. Il n'y a rien de plus utile que l'eau. Mais elle ne peut presque rien acheter. À peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. Ainsi, la valeur d'une denrée quelconque pour celui qui la possède et qui n'entend pas en user, mais qui a l'intention de l'échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail que cette denrée le met en état d'acheter ou de commander.
David Kella, qu'est-ce que nous dit ici Adam Smith sur la valeur ?
Alors, il dit en fait la question de la valeur n'est pas claire, puisque des objets peuvent être très utiles et d'avoir peu de valeur, comme l'eau, alors que d'autres ont beaucoup de valeur. Et donc, il va essayer de redéfinir la valeur par rapport à ce qu'on appelle la valeur d'échange. Alors, et du coup, il faut se poser la question de savoir d'où vient la valeur d'échange. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce paradoxe de l'eau et du diamant, en fait, il va être repris très longtemps aussi par les néoclassiques pour essayer de comprendre aussi d'autres aspects de la valeur. Mais en fait, à cette époque, au XVIIIe siècle, eh bien, on va définir la valeur par, en quelque sorte, le coût de production, c'est-à-dire le travail qu'il a fallu pour produire l'objet.
Le travail, donc, en fait, mais aussi le coût du capital, le coût foncier.
Alors, oui, c'est-à-dire que tout ça, le capital lui-même étant impliquant aussi du travail. Alors, il va y avoir quelques évolutions entre Smith et Ricardo, mais en gros, ce que cherchent à faire les classiques, c'est, les économistes classiques, c'est de comprendre pourquoi les prix fluctuent. Et pour comprendre pourquoi le prix fluctue et qu'est-ce qui est au cœur du prix, bien sûr, il y a la question du marché, c'est-à-dire que l'offre et la demande n'étant pas toujours égales, eh bien, ça va faire fluctuer le prix. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que fondamentalement, les prix de marché ne vont pas s'écarter complètement et arriver sur des prix totalement aberrants. Et donc, ils essaient de trouver le sous-jacent à ce prix. Et donc, essayer de comprendre. Alors, évidemment, la question serait c'est l'utilité du bien. Hein, donc, mais dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi l'eau a si peu de valeur alors que le diamant, qui est peu utile, en a beaucoup. Et donc, ils finissent par arriver à la conclusion que c'est en quelque sorte le coût de production, le coût global, qui correspond en fait à une forme de travail qui a été mis en œuvre pour produire et apporter ce bien sur le marché.
Cette première distinction est intéressante et importante, Philippe Moatti, cette distinction que fait Adam Smith entre le prix naturel déterminé par le coût de production d'une marchandise et le prix du marché qui dépend de l'offre et de la demande.
Oui, les économistes classiques ont bien conscience que la valeur est une sorte de point d'ancrage. C'est ça qui donne le prix théorique en quelque sorte du produit, ce qu'ils vont appeler le prix naturel, parce qu'à l'époque on recherche les lois naturelles de l'économie. Mais ils ont bien conscience, effectivement, ils observent les marchés, ils voient bien que les prix varient au jour le jour, alors que la valeur, elle est supposée rester stable. Donc ils vont établir une dichotomie entre le prix naturel, qui est théoriquement la valeur, donc en gros le coût de production, comme il vient d'être dit, et le prix observé, qui est le prix de marché. Et donc le prix de marché est supposé graviter autour de sa valeur naturelle, du prix naturel. Mais évidemment, ça n'a de sens que si ces fluctuations restent d'ampleur limitée. Sinon, le point d'ancrage disparaît et on ne comprend plus ce qui fonde le prix. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui.
Et c'est une réflexion qui va, en quelque sorte, poser les bases d'une autre réflexion qui est celle des marginalistes et en particulier de Léon Valras, David Guélin.
Alors, c'est-à-dire que les marginalistes, ils vont à nouveau reprendre la question de la valeur en essayant de remettre au cœur de la question qu'ils cherchent, c'est-à-dire l'utilité. C'est-à-dire ce qui avait été abandonné par Adam Smith redevient au centre des réflexions. Et donc, notamment, c'est Jevons avant Valras, pas tout à fait avant, mais c'est une autre école. En gros, il dit, en fait, ce qui est au cœur de la valeur, c'est l'utilité, mais il résout le problème du paradoxe de l'eau et du diamant en disant, oui, certes, l'eau a peu de valeur et a beaucoup d'utilité, mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas l'utilité en tant que telle de l'eau, c'est l'utilité d'en avoir une unité supplémentaire, ce qu'on appelle le raisonnement marginaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder la valeur d'un bien en lui-même, mais la valeur d'un bien par rapport aux quantités qu'on possède déjà. Et dans ce cas-là, quand on réfléchit comme ça, eh bien on s'aperçoit que dans un pays comme l'Angleterre, où il y a en fait beaucoup d'eau partout, eh bien de fait, avoir une unité supplémentaire d'eau n'a en fait pas beaucoup d'intérêt. Et donc ça ne veut pas dire que l'eau n'a pas d'utilité, ça veut dire que en fait, on va repenser la question du bien par rapport au contexte dans lequel il est acheté et consommé. Si on est dans un milieu désertique, on a absolument besoin d'eau, donc là l'eau va avoir beaucoup de valeur, alors que si on est dans un endroit où il y a déjà une abondance d'eau, alors celle-ci n'a pas de valeur.
Et c'est de là que naît l'idée d'un prix d'équilibre entre l'offre et la demande, qui est un prix subjectif.
Alors, au départ, Jevons dit cela, mais en réalité, ça pose aussi un problème de dire que les prix sont subjectifs, parce que ça veut dire que finalement, ça, tout dépendrait que de la demande, et donc plus du tout du coût de production. Et ça, c'est contraire, évidemment, à la théorie de Ricardo et de Smith. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que Marshall va essayer de trouver une forme de compromis en disant, en fait, la valeur, parce qu'il parle quand même de valeur, il ne parle pas juste de théorie des prix, il parle de la question du prix d'équilibre. Il dit, la valeur réelle des biens, c'est, en équilibre, comme la clé de voûte d'une arche, reposant sur les forces de demande qui pèsent d'un côté et les forces de l'autre qui pèsent de l'autre. Et donc, c'est ainsi qu'il va essayer de concevoir une autre théorie de la valeur qui est fondée sur l'idée qu'il existerait un prix d'équilibre qui serait un peu à l'intersection des forces d'offre et de demande.
Alors, on va en venir à Alfred Marshall, mais d'abord, je vous propose d'écouter une lecture de Valras, extraite de ses Éléments d'économie politique pure, publiée en 1874.
La valeur d'échange laissée à elle-même se produit naturellement sur le marché sous l'empire de la concurrence. Comme acheteur, les échangeurs demandent à l'enchère. Comme vendeur, ils offrent au rabais. Et leur concours amène ainsi une certaine valeur d'échange des marchandises, tantôt ascendante, tantôt descendante et tantôt stationnaire. Selon que cette concurrence fonctionne plus ou moins bien, la valeur d'échange se produit de manière plus ou moins rigoureuse. Les marchés les mieux organisés sous le rapport de la concurrence sont ceux où les ventes et achats se font à la criée, par l'intermédiaire d'agents tels qu'agents de change, courtiers de commerce, crieurs qui les centralisent, de telle sorte qu'aucun échange n'ait lieu sans que les conditions en soient annoncées et connues, et sans que les vendeurs puissent aller au rabais et les acheteurs à l'enchère. Le monde peut être considéré comme un vaste marché général, composé de divers marchés spéciaux, où la richesse sociale se vend et s'achète. Et il s'agit pour nous de reconnaître les lois suivant lesquelles ces ventes et achats tendent de même à se faire. Pour cela, nous supposerons toujours un marché parfaitement organisé sous le rapport de la concurrence, comme en mécanique pure on suppose d'abord des machines sans frottement.
David Kella, on entend clairement énoncer ici le postulat de Léon Valras d'une concurrence pure et parfaite à laquelle s'ajoute l'hypothèse d'agents économiques qui seraient parfaitement rationnels.
En fait, ce qu'essaye de faire, bon, il parle pas ici de rationalité au sens strict, mais ce qu'essaye de faire Léon Valras, c'est trouver des lois générales. Alors, on a souvent dit que la théorie marginaliste était un peu inspirée de la mécanique, hein, c'est-à-dire d'où l'idée d'air de frottement. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment est-ce que les prix gravitent, hein, comment est-ce que les forces mécaniques d'une multiplicité d'agents va faire converger les prix vers un niveau qui est le niveau du juste prix. Et on sent bien ici dans d'ailleurs, même dans le titre de l'ouvrage de Valras, hein, qui parle d'économie pure, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une économie sans frottement qui serait la conjonction de millions d'agents indépendants, et d'où l'importance ici de la concurrence. Alors, il n'a pas, à ce moment-là, la question de la rationalité, on n'a pas encore complètement théorisé la question de l'homo economicus, hein, mais il s'agit bien tout de même d'essayer de poser une loi générale, une loi un peu harmonieuse qui montre que finalement du démarché, hein, et des confrontations individuelles vont émerger des prix qui vont organiser en quelque sorte l'ensemble de la société par ailleurs.
Et alors, vous l'avez cité, l'économiste Alfred Marshall, lui, va tenter de concilier l'approche des penseurs classiques comme Smith et Ricardo et celle des marginalistes.
Alors, faut comprendre que Marshall, il écrit au même moment, enfin un peu après Valras, mais cela dit, c'est vraiment une théorie différente. Il est sur la pensée économique anglaise. Je suis pas sûr qu'il ait lu Valras quand il écrit son manuel en 1890. Et en fait, bon, on est plutôt sur un débat interne dans les économistes anglais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire essayer de montrer que il faut à la fois prendre la question de la demande et la question de l'offre pour essayer de déterminer. Alors, il parle bien de cette espèce de prix d'équilibre, c'est-à-dire cette espèce de valeur fondamentale des biens et qu'on distingue après du prix effectif, c'est-à-dire du prix de marché. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans le raisonnement de Marshall, c'est que le marché, il est à la fois au cœur de la théorie de la valeur. Mais il est aussi l'explication des prix effectifs. Donc en fait, il y a deux prix. Il y a un prix, on va dire, d'équilibre, qui est le prix réel, le prix fondamental, et puis un prix observable, qui va être le prix effectif. Et encore aujourd'hui, dans les manuels de licence, les manuels notamment américains, on a toujours cette distinction qui existe le prix d'équilibre qui articule l'offre et la demande, et puis le prix effectif qu'on va pouvoir mesurer, qui parfois va s'écarter du prix d'équilibre.
Ce qui est intéressant, Philippe Moati, c'est que Marshall entérine la notion d'une valeur subjective des prix.
Enfin, il y a deux versants chez Marshall, et ça qui est vraiment intéressant dans la théorie qui va se cristalliser à partir de ce moment-là, en tout cas du côté des néoclassiques, c'est une forme de symétrie entre l'offre et la demande. Donc la subjectivité, elle est du côté des demandeurs, et la question des coûts est du côté des producteurs, et d'ailleurs c'est la concurrence qui va nous ramener les prix vers une détermination par les coûts, parce qu'à l'équilibre, en théorie, le prix est égal au coût marginal. Donc on va hériter, quand on explique ça aux étudiants, on leur montre les fameuses courbes courbe d'offre et courbe de demande, donc deux courbes parfaitement symétriques l'une par rapport à l'autre, et c'est au croisement des deux qu'on va avoir les quantités et le prix d'équilibre. Et donc à partir de là, on va avoir une conception de la vision de la fixation des prix qui résulte d'une forme d'équilibre entre des forces contradictoires mais qui sont symétriques. Il n'y a pas l'une qui aurait le pouvoir par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est le marché souverain qui équilibre les intérêts contradictoires évidemment entre les demandeurs et les offreurs.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la question du rapport de force n'est pas prise en compte, David Kella, dans ce modèle. Ce rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a une supposition d'harmonie, hein, de symétrie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe Moati. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a au cœur de cette vision, hein, cette espèce d'harmonie fondamentale qui fait que à la fin, bah, tout le monde est content, hein, puisque chacun a pu jouer sur le prix. Alors, tout le problème étant de savoir sur quels critères et sur quelles hypothèses repose cette harmonie. Hein, et donc là, ça va poser des problèmes à Marshall, en fait, hein, parce que et d'ailleurs, ça va faire beaucoup de débats au sein des économistes britanniques de l'époque. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une courbe d'offres qui corresponde, hein, de manière symétrique à la courbe de demande, en fait, il faut qu'elle augmente. C'est-à-dire que concrètement, plus on va produire des quantités importantes, plus le coût unitaire de production va devoir augmenter. Alors ça c'est important parce que ça permet d'organiser une courbe d'offres qui ne va pas être plate, c'est-à-dire qui va sur lesquels en fait à chaque pour qu'il y ait une augmentation de l'offre, il va falloir à chaque fois qu'il y ait une augmentation du prix. Et ça permet d'établir une symétrie avec la demande, où on avait la loi de Jevons, hein, qui est la loi de l'utilité marginale décroissante, qui explique que bien plus on possède de biens et moins on lui accorde de la valeur. Et cette courbe d'offre, en fait, eh bien, elle est obligée donc par symétrie de poser un principe de rendement d'échelle décroissante, c'est-à-dire qu'on va être de moins en moins efficace à produire. Et ça, le problème, eh bien, c'est que, et ça, les économistes le disent depuis très longtemps, hein, c'est qu'en fait, on a du mal à trouver véritablement des cas concrets. Enfin, il existe des cas concrets, mais est-ce que ces cas concrets sont des particularités, ou est-ce que la question des rendements décroissants peut être considérée comme une question, y compris à court terme, qui correspond à une loi générale?
Ce que vous voulez dire, donc, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'offre et la demande qui déterminent les prix, ou si c'est le prix qui détermine l'offre et la demande?
Alors ça c'est encore une autre question, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous imaginez une courbe d'offres, c'est-à-dire un coût de production du point de vue du producteur qui est constant, c'est-à-dire que il produit pour 10 euros chaque unité qu'il produit, et que quelles que soient les quantités produites, ça coûtera toujours 10 euros. Alors, vous rendez bien compte, à ce moment-là, que la demande ne peut plus avoir d'effet sur le prix. C'est-à-dire, en fait, c'est le coût de production qui va déterminer le prix de marché, et puisque ce coût de production est unique. La seule façon de faire varier les prix par intermédiaire des courbes d'offres et de demandes, c'est d'avoir en fait un coût variable en fonction des quantités produites. Et c'est ça toute l'hypothèse sur laquelle repose cette symétrie. Alors un économiste comme Sraffa, par exemple, a notamment écrit en 1925-1926 vraiment des articles extrêmement durs sur la théorie Marshall, en disant en fait, sous cette théorie repose sur du vent, puisque finalement on ne sait pas vraiment. Et quand on fait des enquêtes sur les entreprises, on s'aperçoit qu'en général, elles produisent à coût décroissant. C'est-à-dire que plus elles produisent des quantités importantes, plus le coût unitaire de production diminue.
Vous êtes d'accord, donc, Philippe Moati?
Et oui, c'est la faiblesse. D'ailleurs, Marshall s'est un peu accroché aux branches en admettant l'existence de rendements croissants, mais collectifs. Parce que dès lors qu'on admet, en fait, parler de rendement croissant, c'est parler d'économie d'échelle. Ça veut dire que quand on produit en plus grande quantité, les coûts unitaires diminuent. Ça, vous interrogez l'homme de la rue, il pense effectivement que quand on produit en plus grande quantité, ça fait baisser les coûts. C'est vrai que par commodité, pour la beauté du modèle, en quelque sorte, on avait fait l'hypothèse de rendement décroissant, mais c'est assez contraire à la réalité. Et le problème, c'est dès qu'on veut introduire cet élément de réalité dans le modèle, il marche plus. Il marche plus. C'est même pire que ça. Là, on était tout à l'heure sur l'hypothèse de rendement constant. Mais si les rendements sont croissants, donc avec des économies d'échelle, on est forcément en concurrence imparfaite. Et donc, cette déesse concurrence qui fait que ça harmonise spontanément les intérêts des uns et des autres, eh ben, elle fonctionne plus. Elle fonctionne plus. Donc, c'est tout l'édifice qui chancelle dès lors qu'on admet qu'il n'y a pas de rendement décroissant.
Pour vous, David Kella, la théorie du prix d'équilibre qui est dominante aujourd'hui ne permet pas vraiment d'expliquer la fixation des prix?
Alors ça, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire que ensuite il y a la question du fondement de la valeur et des hypothèses sur lesquelles on pose dans notre modèle, mais il y a aussi la question de comment on vérifie empiriquement que cette loi est vraie. Et en fait, le problème, c'est que cette loi de l'offre et la demande, on a l'impression qu'elle est naturelle, évidente. Enfin, tout le monde, quand on fait de l'économie en des cours de première année, comme ça m'arrive, les étudiants sont tous en train de se jeter à la figure des lois de l'offre et la demande. Sauf qu'en réalité, il n'existe pas une loi de l'offre et la demande. Il en existe trois. Une loi de l'offre, une loi de la demande et une loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire, concrètement, premièrement, la loi de l'offre, c'est la loi de la courbe de croissante de Marshall. C'est-à-dire que plus, on va dire, les prix seront élevés, enfin, plus on va vouloir produire davantage, plus il va falloir que les prix sont élevés. Donc c'est l'idée que l'offre va répondre de manière positive au prix, c'est-à-dire que plus les prix sont élevés, plus l'offre sera importante. La loi de la demande, c'est l'inverse, c'est l'idée que plus les prix sont faibles, plus la demande sera importante. Et ensuite, on a la loi de l'offre et la demande, qui dit en fait à peu près l'inverse, c'est-à-dire qui dit c'est l'offre et la demande qui déterminent les prix. C'est-à-dire, en fait, quand on a une offre supérieure à la demande, eh bien, les prix vont baisser, et quand on a une demande supérieure à l'offre, les prix vont augmenter. Mais alors, on se trouve devant un problème, c'est-à-dire logique, c'est-à-dire que les prix et les quantités varient chacune, on va dire, l'une par rapport à l'autre. On a en fait un raisonnement de type circulaire. Alors, pour reprendre un exemple, si je vous dis, on constate une hausse des prix et une baisse de la demande. Alors vous pouvez dire, bah oui d'accord, forcément les prix ont augmenté 10%, la demande a baissé 10%, bah peut-être parce que ça veut dire que la demande s'est ajustée au prix. C'est-à-dire qu'on prend la loi de la demande et dit, bah voilà, les prix augmentent, donc forcément la demande baisse. Mais si je vous dis exactement l'inverse, c'est-à-dire maintenant les prix augmentent et donc la demande augmente, alors là vous allez l'expliquer autrement, en disant, bah voilà, comme la demande a augmenté, l'écart entre l'offre et la demande c'est accru, et donc forcément ça fait... Attendez, excuse-moi.
C'est un raisonnement clairement compliqué.
Oui, non, c'est malin parce que j'avais préparé ça avant de venir, mais en gros, si je reprends les prix de la cerise de 2015, par exemple, vous donnez un exemple, voilà, vous avez une offre qui baisse de 4,2%, une demande qui baisse de 11,1%, donc la demande baisse davantage que l'offre. Donc si on prend la théorie de l'offre et la demande, on pourrait se dire, puisque la demande a plus baissé que l'offre, on va se retrouver en surproduction, donc les prix devraient baisser. Or, on constate à ce moment-là, en 2015, que les prix ont augmenté de 11,7%. Alors, pour essayer d'expliquer pourquoi les prix ont augmenté de 11,7%, on dit, en fait, c'est parce que les prix ont augmenté que la demande a baissé. Donc, en fait, la question, c'est de savoir si, est-ce que c'est les prix qui sont la conséquence de la demande, c'est-à-dire que la baisse des prix fait augmenter la demande, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la baisse de la demande qui fait baisser les prix.
Alors prenons un autre exemple, voilà. Si vous le voulez bien, pour bien comprendre, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'un éleveur laitier, Olivier Potel, et puis on en parle juste après.
Au sortir de la guerre, il a fallu nourrir la population française, alors on a intensifié. Dans les années 70, on s'est mis à cultiver du maïs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus économique de traire des vaches et de les nourrir à l'ensilage de maïs. Alors aujourd'hui, notre lait, il est payé le prix que mes parents touchaient il y a 31 ans. 28 centimes le litre. Si on remet la qualité au bout, parce qu'on est payé pour la qualité et les taux, donc la richesse du lait, chez nous, on touche 32 centimes aujourd'hui. Et notre lait coûte 34 centimes à produire. On travaille pour perdre de l'argent aujourd'hui. Mais tous les laitiers de France, hein, sauf les producteurs qui sont sur la zone comptée, l'AOC comptée, c'est le lait le mieux payé de France. C'est eux les grands gagnants et les bio aujourd'hui. Enfin, un litre de lait bio est payé 45 centimes. Si on met la qualité au bout, on est autour de 50 centimes. Et avec des charges moindres parce que pas d'achat d'aliments externes. Donc les résultats économiques des producteurs bio sont bons.
Un extrait de la série documentaire sur France Culture, un épisode diffusé en mars 2019. Est-ce que ça nous donne un exemple, Philippe Moatti, de prix déséquilibré? Parce qu'on a ici un prix qui est trop bas pour permettre aux éleveurs d'en vivre.
Bah, ça pointe ce qui manquait dans les constructions théoriques dont on a parlé jusqu'à maintenant, le pouvoir. Le pouvoir, parce que les hypothèses sous-jacentes au modèle, c'est que du côté de l'offre comme de la demande, on est en condition d'atomicité. Donc un grand nombre d'acteurs de petite dimension qui individuellement n'ont aucun impact sur le marché.
Donc les éleveurs face à la grande distribution.
Oui, n'oubliez pas entre les deux, les industriels comme qui transforment, c'est une grosse partie de la production de lait hein, qui va en transformation pour faire des produits laitiers, des fromages, du beurre et des yaourts. Effectivement, là on a un secteur industriel, mais on pourrait ajouter le secteur de la distribution très concentré, avec des acheteurs qui se font un point d'honneur d'arriver à acheter au prix le plus compétitif, pour les distributeurs, pour redistribuer aux consommateurs, et pour les industriels pour faire des marges. Donc en fait, on a une asymétrie sur ce marché, des producteurs en grande quantité, même si on peut avoir des grosses coopératives hein, quand même, et des acheteurs en très petite quantité qui ont un pouvoir des négociations considérables. Et donc on se rend compte à travers cet exemple que le prix c'est aussi un rapport de force.
C'est un exemple qui montre ce que Jacques Mistral appelle la fable des marchés efficients, David Kella.
C'est-à-dire que moi je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire le prix c'est un rapport de force. Alors moi j'ai tendance à trouver une autre analogie hein, que celle de l'arche que propose Marshall, c'est-à-dire cette espèce d'harmonie architecturale qui nous propose pour la théorie de la valeur. Je dirais plutôt c'est la question du tir à la corde, hein, c'est-à-dire que chaque équipe va tirer et à la fin il y en a une qui gagne et qui remporte tout. Vous voyez, le principe du marché, il faut bien comprendre que quand on intervient sur le marché, qu'on est un demandeur par exemple, on a des prix de réserve, qu'on a un offreur, on a des prix de réserve, c'est pas tout à fait les mêmes. Du point de vue des demandeurs, le prix de réserve, c'est un prix maximal, au-delà duquel on va renoncer à l'achat. Du point de vue du vendeur, ben, c'est un prix minimal. Et bon, imaginons qu'on ait un produit avec deux parties, la partie acheteur qui a un prix de réserve de 20 euros et la partie vendeur qui dit bon, ben, je ne vendrai pas en dessous de 10 euros. Eh bien, en fait, la question se pose, à quel niveau va se faire le prix ? Et alors, si on croit les histoires d'harmonie, ben on va se dire, bah ça va être à peu près entre les deux, c'est-à-dire par exemple à 15 euros. Sauf que, en fait, dans la réalité, ce qu'on constate, c'est que les marchés, ils organisent pas le prix de cette façon-là. En fait, il va y avoir un camp qui va être gagnant, et puis un camp qui va être perdant. Alors, le camp gagnant, c'est souvent celui qui est moins nombreux, qui peut plus facilement se concerter, ou qui dispose d'un certain nombre de d'institutions qui va le favoriser dans les négociations. Et dans ce cas-là, quand il y en a un des deux camps qui gagne, eh bien en fait, le prix de marché va être au niveau du prix de réserve hein, des acheteurs et des vendeurs. Donc en fait, le prix de marché, si tant est qu'on a une hypothèse que tout le monde a à peu près le même prix de réserve, ce qui est évidemment une hypothèse assez héroïque, eh bien va soit faire des prix de 20 euros, hein, si ce sont les vendeurs qui sont en position de force, soit arriver vers des prix de 10 euros. Et en fait, le prix qui va justement pas se produire, c'est le prix de 15 euros. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les marchés agricole, quand on a libéralisé des prix, parce qu'auparavant, c'était dans le cadre de la PAC, il y avait ce qu'on appelait des prix garantis. Hein, on a organisé maintenant un système de dérégulation des prix. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la conséquence de ça, c'est que les prix sont devenus beaucoup plus volatiles. Parce que tout le principe d'un système fondé sur un rapport de force, c'est que parfois les prix vont être très élevés parce que ce seront les offreurs qui auront l'avantage, mais parfois ce seront les demandeurs. Dans ce cas-là, le prix sera, le demandeur, donc le prix sera très faible. Et en fait, la gestion des prix, en fait, va organiser des fluctuations extrêmement importantes.
Alors, il y a la question des prix agricoles, mais il y a aussi la question des services. Philippe Moati, est-ce que les théories classiques sur la formation du prix sont toujours pertinentes quand on parle de services et non plus de marchandises ?
Alors ça dépend des services. Quand vous êtes sur des services parfaitement standardisés qui ressemblent finalement à des produits, ils sont simplement dématérialisés, en gros on est sur les mêmes logiques. Mais le propre d'une relation de service, c'est que le produit ne préexiste pas. Parce qu'il y a encore une autre hypothèse très forte derrière toute la construction théorique dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est que le produit préexiste. Quand on campe cette situation de marché la criée, comme disait Valras, où vous avez un commissaire-priseur qui trouve le compromis entre les vendeurs d'un côté et les offreurs de l'autre, ça présuppose, l'image est très juste, que le produit préexiste. Et c'est par rapport à un produit préexistant que les uns et les autres se positionnent, définissent, ce qui vient d'être dit, un prix de réserve, c'est-à-dire le prix maximum que je suis prêt à consentir pour acheter ou un prix minimum pour que je sois prêt à vendre.
Et dans quel cas la marchandise ne préexiste pas ?
Eh bien, dans un service, très souvent. Quand vous allez voir, quand vous faites venir un plombier chez vous, alors, en principe, il a un tarif horaire, mais c'est une base très, très, très floue. Vous ne savez pas ce que vous allez acheter. C'est dans la rencontre entre l'offre et la demande, entre le prestataire et le bénéficiaire, soyons plus juste dans les termes qu'on utilise, que va naître quelque chose d'inédit, hein, un service qui va être produit de manière inédite par rapport à ce couple prestataire-bénéficiaire, problème à résoudre. Donc on se pose la question, du coup, sur quelle base on va fixer le prix ? Là, on sent bien que sur les services, et c'est pas le seul secteur qui fait exception, sur le secteur des services, ça pose un problème. Bon, prenez les consultants, le marché des consultants. Moi, je dirige un master qui forme des consultants. Comment on fixe le prix d'une mission de conseil. Alors que par définition, la qualité de ce qu'on a acheté sera découverte au mieux quand la mission du consultant sera terminée. Mmh. Voire même jamais, parce qu'on ne saura pas réellement l'impact qu'aura eu le conseil sur la marge de l'entreprise.
On peut aussi penser à Netflix, par exemple, le prix de l'abonnement. Ce n'est pas un prix qui est calculé à partir de la valeur, c'est un prix marketing.
Là, vous êtes encore sur un autre cas de figure. C'est les cas de figure où le coût marginal est nul. Donc ça, on l'a dans l'économie du numérique, c'est extrêmement fréquent. On a dit tout à l'heure, hein, le prix est plus ou moins fondé sur les coûts de production. Mais dans les coûts de production, il y a les coûts fixes. Produire un film, ça coûte horriblement cher. Et il y a le coût variable, que les économistes appellent le coût marginal, le coût de la dernière unité vendue. Mais vous voyez bien qu'un abonnement...
Ça n'existe pas dans le cas d'une plateforme, quand on a de nouveaux abonnés.
Un nouvel abonné ne coûte rien en plus, ou vraiment epsilon, à la plateforme. Donc du coup, si on en croit à l'équilibre dans la théorie néoclassique, le prix est égal au coût marginal. Mais si le coût marginal est nul, comment fixe-t-on le prix? Donc voilà, et avant Netflix, vous aviez les fichiers MP3 vendus par Apple. À quel prix vendre un fichier MP3? Il n'y a aucune base objective pour fixer le prix d'un fichier MP3.
La question de la fixation du prix, elle se complique encore davantage aujourd'hui, à l'heure où les prix sont de plus en plus personnalisés. Alors est-ce que la théorie de l'équilibre général qu'on a expliquée peut encore constituer un modèle à l'heure de cette individualisation des prix sur Internet? On en parle dans un instant.
Il n'y a pas de bonheur en boîte, pas de bonheur surgelé. Y a pas de bonheur en stock, ou alors j'ai pas trouvé. Pas de bonheur à la coupe, pas de bonheur au kilo, pas de bonheur au détail, ni au prix de gros. Mais que font les super, mais que font les hyper, mais que font les marchés, que font les supermarchés? Le bonheur c'est pas pratique, on peut pas le conserver. Quand les clients sont contents, ils ne reviennent jamais. Que faudrait-il inventer? Du bonheur reconstitué, génétiquement modifié, sévèrement pasteurisé. Mais que font les super, mais que font les hyper, mais que font les marchés, que font les supermarchés? Je veux ma part de bonheur, du bonheur conditionné, du bonheur à prix cassé, du bonheur sans intérêt, du bonheur à encaisser, du bonheur en promotion, avec bon de réduction. Mais que font les super, mais que font les hyper, mais que font les marchés, que font les supermarchés?
Que font les supermarchés de Thierry Chazel et Lily Crow sur France Culture dans Entendez-vous l'écho? Nous poursuivons notre quête du juste prix en compagnie des économistes Philippe Moatti et David Kella. Alors on l'a dit, la tendance est aujourd'hui à une individualisation des prix, une pratique qui n'est pas nouvelle mais qui a pris une nouvelle ampleur avec l'essor du numérique et du big data. Désormais, les prix personnalisés sont possibles dans de nombreux secteurs d'activité, Philippe Moatti.
Alors ça dépend ce que vous entendez par prix personnalisé. Si vous êtes en train de dire que désormais le prix est, chaque client est face à un prix unique qui lui est destiné, cette situation est rarissime. On n'en est pas là, mais on en prend le chemin. On en prend le chemin. Non, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une variabilité des prix sans précédent. Les prix varient dans le temps, les promotions, les soldes. Dans l'espace, d'un magasin à un autre, on peut avoir des prix très 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 différents. Et peut-être pas d'un client à l'autre, mais au moins d'une catégorie de clients à une autre, on peut avoir des écarts tout à fait considérables. Et le point d'horizon, effectivement, c'est d'être de plus en plus fin dans la manière de fixer le prix et éventuellement d'être capable de fixer un prix complètement individualisé. Car il faut bien comprendre que la théorie qu'on a évoquée tout à l'heure, les entreprises détestent. Parce que si toutes les conditions sont réunies, qui sont des conditions théoriques, le profit est à zéro. ne profite à zéro. Donc on comprend bien que chaque entreprise individuellement va tenter de déployer une énergie considérable pour sortir de cette fatalité qui plombe sa rentabilité.
L'objectif, c'est d'atteindre, avec un prix qui serait le plus personnalisé possible, d'atteindre la disposition maximale des consommateurs à payer pour un produit.
Et voilà, ça c'est le rêve, ce qu'on appelle la discrimination de premier degré, c'est-à-dire être capable, on parlait du prix de réserve tout à l'heure, hein, c'est le prix que chacun est disposé à payer. On n'est pas toujours capable de le formuler, hein, mais on l'a quelque part en tête. Et effectivement, la tarification optimale pour un vendeur, c'est de faire payer celui qui peut payer peu, et bien le faire payer peu, à condition évidemment que ça soit supérieur au coût de production, sinon il perd de l'argent, et celui qui veut payer beaucoup, le faire payer beaucoup. Par exemple, les hypermarchés, aujourd'hui on se rend compte que c'est une aberration, ils ont fondé leur modèle économique sur le prix bas, mais le prix bas pour tout le monde. Alors effectivement, en ayant des prix bas, ils ont réussi à drainer une clientèle très attentive au prix, qu'ils n'auraient pas eu, mais ils ont offert des prix bas à des gens qui sont indifférents au prix, donc ils auraient pu gagner beaucoup plus d'argent s'ils avaient été capables de moduler leur tarification en fonction du profil des clients.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de secteurs qui peuvent pratiquer cette personnalisation des prix, David Kella.
Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est que à l'origine, les prix étaient tous personnalisés. Je veux dire, à l'origine, avant justement l'invention, on va dire, du prix de marché par Adam Smith et autres, c'est-à-dire qu'on avait des prix qui étaient en fait relationnels. C'est-à-dire que le commerçant, il voyait quelqu'un entrer dans sa boutique et puis, en fonction de la personne, eh bien, il lui faisait un prix qui était différent. En fait, tout ça a changé parce que justement la théorie économique a dit oui, mais non, il doit y avoir des prix de marché, des prix réels en quelque sorte purs, hein, de l'économie pure. C'est-à-dire qu'on doit supprimer, on doit dissocier. Hein, l'économie est fondée sur l'idée qu'on va dissocier le social de l'économique et essayer de comprendre l'économie pure. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait légalement? Ben, on a obligé les commerçants à afficher leurs prix. Et donc, pendant quelques temps, on va dire, on a construit une société qui était conforme plus ou moins au modèle économique. Et maintenant, on revient sur autre chose, c'est-à-dire la capacité à nouveau de rediscriminer. Mais cette fois-ci, on le fait par des algorithmes, alors qu'auparavant, c'était le talent du commerçant qui permettait de discriminer. Lui, il est riche, je vais lui faire payer cher, et l'autre, il est pauvre, je vais lui faire payer pas cher.
Et donc, concrètement, les prix varient selon la localisation géographique du client, selon son âge, avec une volonté de personnaliser au maximum.
En théorie, c'est ce qu'on devrait faire, sauf que comme on l'a rappelé tout à l'heure, bah en fait c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a aussi des moyens de naviguer par exemple sur Internet de manière masquée, d'éviter les cookies, etc. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est du point de vue de la théorie économique, c'est-à-dire que la théorie économique a voulu construire un monde où il existait des prix purs, on va dire des prix de marché qui étaient objectifs. Et puis maintenant, en fait, avec la technologie, on s'aperçoit qu'on essaye de plus en plus d'organiser un système où finalement les prix vont redevenir subjectifs. Sauf qu'on ne le lit pas avec l'idée que, parce que ce qui était le cas auparavant, c'est-à-dire que les prix étaient relationnels, les rapports, on va dire, étaient à la fois économiques et sociaux. Maintenant, on veut faire des rapports économiques purs, donc on est vraiment dans la logique de maximisation du profit du point de vue de l'entreprise, mais qui donc va essayer de maximiser son profit en utilisant des technologies, mais sans organiser ce qui était auparavant le fonctionnement des sociétés, on va dire, pré-capitalistes, qui était un système dans lequel, on va dire, le marché était cohérent avec la société. Maintenant, on crée des systèmes de rapports de force d'entreprise qui bénéficient d'un ensemble de données pour essayer de maximiser leur profit.
Alors justement, prenons un exemple, il y a ce qu'on appelle la tarification dynamique. Les prix varient dans le temps, comme l'explique Pierre Hébrard. Il est à la tête de PriceMove, une start-up spécialisée dans ce type de tarification.
On récupère la donnée de nos clients, donc ça c'est fait grâce à différents algorithmes et API qui vont nous permettre de récupérer cette donnée. Elle est rangée de manière totalement standardisée dans des bases de données qui sont ensuite exploitées par les algorithmes. Il se trouve que, quels que soient les secteurs, de l'hôtellerie à la location de voitures, on optimise une ressource qui est périssable dans le temps. Si elle n'est pas utilisée, la chambre d'hôtel par exemple, elle disparaît, tout comme une location de voiture. Donc finalement, le sous-jacent, c'est-à-dire les types de données nécessaires, les algorithmes qui les exploitent, sont extrêmement similaires. On va donc pouvoir s'appliquer à tous les domaines qui peuvent avoir du yield management, c'est-à-dire un stock qui est périssable dans le temps. S'il n'est pas utilisé, il ne rapporte pas d'argent. Alors, vous verrez que ces données-là sont souvent des données de réservation, de contrat, de facturation, oui, d'utilisation de stock. On retrouve les mêmes.
La tarification dynamique, Philippe Moati, est d'abord née dans le domaine du transport aérien aux États-Unis dans les années 80.
Absolument. Effectivement, on appelait ça le yield management. On l'appelle encore comme ça. Hein. Mais ce terme est plutôt consacré aux industries de coûts fixes. Effectivement, où on a des produits périssables, en quelque sorte, si on les vend pas dans un délai raisonnable, la valeur est complètement perdue. Donc un avion qui part à moitié vide, les places qui n'ont pas été remplies, elles sont définitivement perdues. Un hôtel où des chambres n'ont pas été louées pour la nuit, c'est perdu. Donc là, on va essayer de jongler avec la tarification pour essayer d'optimiser le taux de remplissage. Donc ce qui était au départ des pratiques très circonscrites, des secteurs très particuliers, aujourd'hui, elles commencent à se banaliser dans des secteurs où on n'a pas ce genre de problématique. Vous avez cité en introduction Amazon. Amazon va faire varier les prix sur des produits de grande consommation, en dehors de toute problématique de périssabilité du produit. Et ça, effectivement, ce qui va le permettre de le faire, c'est deux choses. Hein. C'est la technologie, parce qu'il faut arriver à comprendre quel est ce prix de réserve hein, que chaque client ou catégorie de clients a en tête. C'est quand même très compliqué. Et évidemment, objectivement, en tant que consommateur, on n'a pas intérêt à le révéler. Hein. Donc, essayer de le saisir, et puis de contenir la colère que ça peut susciter quand un client se rend compte qu'il a payé plus cher qu'un autre. Sans parler ensuite des petits malins qui achèteraient pas cher pour revendre à d'autres qui seraient prêts à... Voilà. Donc c'est quand même un sport un peu délicat et c'est vrai que sur Internet, comme les choses se font de manière bilatérale, relativement cachée, etc., et les consommateurs laissant des traces extraordinairement prédictives de leur comportement, on a un terrain de jeu extraordinaire qui ne fait que commencer à être exploité par les entreprises.
Mais effectivement, parmi les risques de cette personnalisation des prix, il y a ce sentiment d'injustice que peuvent ressentir les consommateurs et de rejet. Je pense par exemple à Uber qui pratique des tarifs plus élevés quand par exemple la batterie de votre téléphone est en train de vous lâcher. Ça provoque un sentiment d'injustice très fort, Philippe Moati.
Nous venons de l'Obsoco de réaliser une étude sur le rapport des Français au prix avec justement comme point d'ancrage la conception qu'ont les Français du prix et du prix juste et comment ils réagissent à ces variations tarifaires. Alors ce qui est d'abord très intéressant c'est de voir quels sont comment les Français comprennent la fixation des prix. On a parlé de théorie économique. Nous, on leur a demandé, pour vous, comment on se fixe les prix, quoi. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont plutôt la conception des économistes classiques, quoi. Donc, en résumant, parce que c'est un peu plus compliqué, il y a bien cette idée que le prix, il reflète la valeur, quoi. Et qu'est-ce qui donne la valeur au bien? En gros, la difficulté qu'il y a à le produire, la quantité de matière et de travail qu'il faut pour les produire. Donc, en gros, la notion de coût de production. Et on admet que autour de ce prix de référence, quoi, cette valeur intrinsèque, il y aurait des fluctuations possibles en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande, donc de l'intensité de la concurrence, etc. Enfin, une sorte de sagesse populaire, mais qui renoue avec plutôt l'approche classique prix naturel, prix de marché. Et donc, quand vous avez ça en tête, et que vous êtes confronté à la variabilité des prix qu'on connaît aujourd'hui. N'allons pas chercher le prix individualisé, mais regardez simplement les promotions dans les boutiques, où avoir aujourd'hui moins 50, moins 70% est monnaie courante. Comment est-ce qu'un prix peut varier d'une telle intensité si le prix doit être le reflet de la valeur des biens? Et donc ça crée chez les consommateurs un sentiment de perplexité, voire l'intuition qu'on est confronté à l'exercice d'un pouvoir de la part de ceux qui fixent le prix pour nous avoir en quelque sorte et d'être confronté à des prix injustes.
On l'a vu en 2000 quand Amazon a mené une expérience qui consistait à proposer des DVD à des prix différents selon les clients. Ça avait provoqué un tollé et Amazon avait dû rétro-pédaler. David. Exactement. Qui est là.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que bon, évidemment, les gens sont outrés de voir que leur voisin peut acheter moins cher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on connaît quand même sociologiquement les catégories socio-professionnelles supérieures qui ont plus de moyens vont pas acheter du tout les mêmes produits, notamment culturels, que les autres. Et donc c'est très facile pour une entreprise comme Amazon de voir votre historique d'achat. Si vous achetez des livres, par exemple d'économie ou de théorie un peu compliquée, vous serez plus facilement dans des catégories socio-professionnelles élevées et donc on va vous vendre ensuite des prix plus chers. Sauf qu'évidemment le problème c'est que le prix c'est quelque chose de très quantifiable, c'est-à-dire que alors ça c'est un peu l'anthropologue David Graeber qui explique cela, c'est-à-dire il dit bon en fait les relations humaines parfois ne sont pas toujours quantifiables, on peut pas savoir comment quantifier l'amour des uns des autres, etc. Et donc on a des engagements les uns par rapport aux autres qui sont des engagements souples et qui correspondent à une idée qu'on se fait de nos valeurs. Mais quand il s'agit de prix, alors là tout est quantifié, ou de dette ou des choses comme ça. Et donc en fait un demi euro ou deux euros de plus ou de moins, ça fait une différence immédiate. Et donc ça crée aussi un malaise. Et on est toujours sur cette question que entre le monde économique et le monde social, il y a des frottements. Hein. Tout n'est pas aussi simple que ce que veut dire les théories économiques. Qui veulent concevoir un monde économique détaché de toute contrainte sociale.
Et est-ce que les consommateurs ne sont pas nécessairement perdants puisqu'ils n'ont plus les moyens de comparer? Donc ce processus de personnalisation des prix peut avoir un impact sur la concurrence, Philippe Moati.
C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner dans le cas extrême où chaque consommateur aurait le prix maximum qu'il est prêt à payer que si on n'est pas sur un marché concurrentiel. Parce que sur un marché concurrentiel, si vous, vous voulez faire payer plus cher les riches, un concurrent pourrait pratiquer le prix de marché et à ce moment-là capterait la clientèle. Donc la capacité de jouer sur les prix et d'une manière personnalisée est indissociable de la notion de pouvoir de marché. Ce n'est possible que si on a un pouvoir de marché.
Et ça peut renforcer encore des positions dominantes.
Et ça peut renforcer des positions dominantes, exactement. Mmh. Donc c'est quand même un sujet qu'il faut regarder de près, notamment l'autorité chargée de la concurrence regarde ça d'assez près, parce que même si la théorie économique n'est pas très claire là-dessus, hein, parce que par exemple faire payer peu cher les clients qui sont peu disposés à payer cher, notamment parce qu'ils sont pauvres par exemple, y a une forme de redistribution qui s'opère, hein, des riches vers les pauvres. Donc les impacts en termes de bien-être, pour parler comme un économiste néoclassique, ne sont pas si clairs que ça en réalité. Voilà.
David Kella.
Mais il faut dire aussi que le pouvoir de marché, il est aussi lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre le coût fixe et le coût marginal. Aujourd'hui, Microsoft est de fait en monopole et il n'est pas question de supprimer le monopole. La Commission européenne a essayé d'éviter les abus de position dominante, mais pas supprimer le monopole de Microsoft. Et pourquoi ? Parce que le coût de production d'un logiciel est extrêmement élevé et que en fait, il n'est rentabilisé que si on en distribue des millions, des centaines de millions de copies à des coûts marginaux, donc de coûts unitaires de production qui sont extrêmement faibles, voire quasiment égal à zéro. Je veux dire, dupliquer un logiciel, ça coûte absolument rien. Et donc, par conséquence, par construction, comme on a des coûts de développement extrêmement élevés et des coûts de reproduction, c'est-à-dire de distribution du produit qui sont quasiment égal à zéro, eh bien les seuls qui peuvent être performants dans ce modèle-là sont des entreprises monopolistiques. Et donc, de fait, le pouvoir de marché, en fait, on arrive aujourd'hui dans un système d'entreprises en monopole. Pour tout ce qui est bien culturel, pour tout ce qui est bien, on va dire, immatériel, qui, par définition, ne repose pas sur l'extraction de nouvelles matières, qui peut être diffusée et répliquée indéfiniment, eh bien, on a des monopoles qui vont de fait exercer leur pouvoir de marché. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que si on était en situation de concurrence, il n'y aurait pas de problème d'individuation des prix. C'est-à-dire chacun, il y aurait toujours un concurrent pour rabaisser le prix si un producteur voulait le vendre trop cher.
Mais alors on a dit que les consommateurs ont du mal à accepter ou vivent comme injuste ces pratiques de personnalisation. Alors comment est-ce que les entreprises peuvent faire accepter la tarification à géométrie variable, Philippe Moiti? Est-ce que il faudrait par exemple inclure davantage les consommateurs dans la fixation des prix?
Alors, c'est une voie. La voie la plus courante aujourd'hui observée, c'est de le cacher. Voilà, qu'on sache pas.
En se disant qu'ils vont bien finir par s'y habituer.
D'abord, on s'y habitue. Aujourd'hui, ça choque plus grand monde qu'on puisse avoir de tels écarts sur le prix d'un billet d'avion. On n'est plus tellement choqué. Il y a une étude américaine qui s'est intéressée au cas de la tarification de l'hôtellerie et dans le transport aérien. Et qui montrait qu'effectivement, on considérait normal, à peu près normal, cette discrimination tarifaire dans le transport aérien, mais pas dans l'hôtellerie. La même étude a été faite 10 ans plus tard. Eh bien, on trouvait à peu près normal que ça soit fait dans l'hôtellerie parce qu'on s'y est habitué. Donc, il y a une question d'accoutumance. Mais sans aller jusque-là, l'ignorance, déjà, est un... Parce qu'on a beaucoup parlé d'Internet, mais dans les hypermarchés, vous avez de la discrimination tarifaire. Vous avez un prix à la gueule du client. Par les bons de réduction qu'on vous remet à la sortie des caisses, ça vous a pas échappé que quand vous faites vos courses, si vous avez la carte de fidélité, on émet à la sortie de la caisse des bons de réduction personnalisés. Je sais pas, je vais vous poser la question. Est-ce que vous les ramenez, vous, quand vous faites vos courses? Est-ce que vous activez ces bons de réduction?
Ah, moi, je les oublie.
Et vous les oubliez, mais c'est pas le cas de tout le monde. En gros, 30% des consommateurs ramènent ça veut dire que, pour un même prix, pour une même étiquette, pour un produit dans le rayon, et on ne paiera pas au même prix selon qu'on a ramené ou non le ticket de réduction, ce qui témoigne d'une sensibilité au prix qui est inégale. Donc vous voyez, même dans le monde physique, on a des prix différents et ça choque personne. Notamment ici parce qu'on a distribué des bons à tout le monde, mais certains se sont donné la peine de le ramener et d'autres ne l'ont pas fait.
Il ne faudrait effectivement pas réduire la personnalisation, l'individualisation des prix à la vente en ligne. David Kella, ça existe aussi dans la vente physique?
Mais oui, mais il existe même un cas encore plus simple, c'est les restaurants. Vous voyez, le menu de midi et le menu du soir, ils sont pas du tout au même tarif, alors même que le plat est pas toujours tellement différent. La réalité, c'est quoi? C'est que le soir, eh bien, c'est un dîner qu'on fait, c'est un dîner, on va dire, personnel, sur lequel on est prêt à loisir, sur lequel on est prêt à dépenser beaucoup d'argent, alors qu'à midi, c'est un déjeuner travail, où on essaie de réduire au maximum le prix. Et donc, le même restaurant va vous offrir un prix différent à midi que le soir.
Et alors le problème, c'est que cette variabilité des prix que l'on observe est peut-être susceptible de favoriser ce qu'on appelle la mauvaise consommation, c'est-à-dire les consommateurs seraient tentés d'acheter simplement pour faire une bonne affaire des produits dont ils n'ont pas besoin, Philippe.
Oui, c'est ce qu'on observe et ça c'est inquiétant. Donc les consommateurs sont globalement réservés par rapport à cette fluctuation des prix parce qu'ils perdent leur repère, en gros. Donc ils savent plus à quel sein se vouer, ils sont jamais sûrs d'avoir acheté au bon prix. Ça, c'est très déstabilisant. Donc globalement, ils rejettent toutes ces pratiques-là, même s'ils sont conscients que c'est peut-être un terrain de jeu pour faire de l'achat malin et optimiser sa consommation. Ce qui est frappant, c'est de constater que ça a un effet pervers, ça a tendance à nous amener à choisir des produits non pas pour leur valeur intrinsèque et leur niveau de prix absolu, mais de choisir, enfin d'avoir dans nos critères de choix.
Pour la satisfaction qu'on pourrait en retirer.
Et oui, donc l'utilité hein, dont on parlait tout à l'heure. Mais de choisir sur la base du niveau de rabais qu'on va me proposer, du sentiment de bonne affaire que je peux en tirer. Et finalement, après le plaisir d'avoir, le sentiment d'avoir été plus malin que le système, on peut se retrouver avec un produit qui ne correspond pas à son besoin, qui est mal adapté, qu'on a acheté alors qu'on n'en a pas besoin du tout en réalité. On a fait cette année une étude à l'occasion du Black Friday, on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Donc ils étaient une large majorité à avoir l'intention d'aller acheter pendant le Black Friday. Mais les mêmes nous disaient, mais attention, ça pousse aussi à la surconsommation, à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc vous voyez, quelque part, ça révèle un moment de faiblesse hein, dans le modèle de consommation contemporain, où on active ces dispositifs de jonglerie avec les prix, notamment les promotions, pour stimuler un désir de consommer qui a tendance un peu à s'étioler. Et alors, ça peut produire de l'efficacité à court terme, ça a un effet collatéral très dommageable, ça accroît le sentiment de défiance des consommateurs à l'égard des grands acteurs de l'offre et ça objective le fait qu'on n'a pas les mêmes intérêts des deux côtés du marché.
Et il y a une réponse qui s'organise face à cela pour savoir si les plateformes d'achat en ligne respectent les intérêts des consommateurs et les droits des citoyens. Il y a une plateforme scientifique collaborative qui a été créée il y a 3 ans, Transalgo. L'enjeu, Philippe Moiti, c'est voilà, de recréer cet équilibre entre vendeurs et consommateurs en surveillant, en quelque sorte, les algorithmes et le caractère éthique des algorithmes.
Si on admet que le prix est un rapport de force, et ben, il faut rééquilibrer les deux manches, les deux versants de la corde. Hein, j'ai bien aimé cette image. Redonner du pouvoir aux consommateurs, avec les mêmes technologies d'ailleurs. Ces technologies numériques peuvent redonner du pouvoir aux consommateurs, mais nous sommes toujours des acheteurs à temps partiel, amateurs. En face, on a des vendeurs professionnels à temps plein.
David qui est là sur la nécessité de surveiller ces algorithmes.
Alors, oui, mais nous sommes aussi des vendeurs, parce que nous sommes tous aussi dans le processus de production et on est rémunéré aussi par la vente des produits qu'on participe à produire. Moi, je pense qu'il faut aussi penser que le vrai prix, le prix parfait, le prix naturel, on va dire, n'existe pas, et que l'État et le collectif peut aussi décider d'un certain nombre de régulation des prix. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut organiser l'ensemble de sociétés autour du principe de prix de marché, soi-disant émanant spontanément des marchés, alors que concrètement, parfois, eh bien, si on veut éviter les injustices, ben faut aussi penser qu'on peut intervenir sur les prix. Par exemple, la politique agricole commune a été longtemps organisée sur des prix garantis,
de la façon qu'on a des prix d'usure.
Alors cette loi d'alimentation, elle fonctionne pas encore très très bien.
Non, mais c'est une tentative dans cette direction.
En tout cas, il faut pas s'interdire, par définition, il faut pas s'interdire la possibilité de co-décider ou de co-discuter des prix et de la manière dont ils fonctionnent.
On ne peut pas complètement laisser la fixation du prix au marché, Philippe Moiti?
Non, parce que le marché tel qu'on les économistes l'ont dessiné n'existe pas. Donc il faut être lucide sur ce que représente un prix, un rapport de force. Et dès qu'un rapport de force est établi, il peut être inéquitable et donc il faut un arbitre pour rééquilibrer le jeu.
Mais c'est tout un champ de réflexion qui demeure, David, qui est là, puisque ce qu'on comprend bien, c'est que cette question du prix, de la fixation du prix, continue de diviser les économistes et le débat est loin d'être tranché.
C'est-à-dire qu'il faut à nouveau revenir sur le fait que l'économie pure n'existe pas et que la société a aussi son mot à dire dans la manière dont l'économie fonctionne. Il faut savoir que tous les prix sont aussi des revenus. Je veux dire, on est tous des deux côtés du prix. On n'est pas que d'un seul côté. On n'est pas que des consommateurs.
Eh bien, on continuera cette réflexion demain en parlant notamment de la vision du prix chez les penseurs du Moyen-Âge, avec cette vision qui mêle aussi l'éthique à cette problématique. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
C'est aujourd'hui le Super Tuesday aux États-Unis, jour de vote pour les primaires démocrates dans 14 États. Une étape qui devrait donner plus clairement les grandes orientations économiques du Parti démocrate.
Oui, c'est vrai que le scrutin est déterminant. Un tiers des délégués nationaux votent et c'est un vrai choix pour le Parti démocrate avec 5 candidats encore, dont surtout 2 incarnent une tendance à gauche inédite pour le parti. D'abord, Elizabeth Warren, toujours en lice, considérée comme radicale pour sa volonté volonté notamment de démantèlement des GAFA. Et puis surtout, celui qui fait beaucoup parler et écrire, c'est Bernie Sanders, le sénateur qu'on dit socialiste, au programme que beaucoup appellent révolutionnaire. Jugez-en une assurance santé universelle, ce fameux Green New Deal ou la taxation des milliardaires. Et puis avec des propos comme « chaque milliardaire est un échec », une formule qu'il a employée récemment. Sanders, jusqu'ici favori, mais qui devra résister à une partie de ses concurrents qu'il présente donc comme repoussoir et se heurte à la défiance des milieux financiers avec un programme chiffré par Yahoo Finance à 4900 milliards de dollars par an, soit 23% du PIB. Est-il alors un candidat impossible pour les démocrates? Maître de conférence en civilisation américaine à Paris, Bradley Smith, lui, se veut plus nuancé.
C'est pas si radical que ça, parce que quand on regarde dans les détails les propositions de Sanders, on est plus dans l'héritage de Roosevelt et du New Deal, y compris au niveau des symboles qui sont choisis. Et ce qu'il propose sur le plan fiscal va même pas jusqu'au taux maximal sur l'impôt sur le revenu qu'on pouvait constater pendant tout le milieu du XXe siècle. Par contre, ça représenterait une rupture assez importante avec la ligne du Parti démocrate depuis presque une trentaine d'années. Le public que vise Sanders, c'est notamment les jeunes, les minorités, les classes ouvrières et moyennes, qui sont un peu les perdants de ces politiques depuis une trentaine d'années. Il y a quasiment 50% des Américains qui s'abstiennent lors des présidentielles. Ça représente énormément de voix potentielles et ça vise notamment ces jeunes qui ont une dette étudiante énorme et qui a un vrai frein pour le développement économique quand il y a toute la jeunesse qui sort des études avec entre 20 et 40 000 dollars de dette dès le début de leur carrière. Numériquement, en termes de voix, les minorités par définition. Après, au niveau des moyens financiers, la campagne de Sanders a démontré sa capacité à lever des fonds énormes par de petites contributions.
Vous rappeliez la semaine dernière que Bernie Sanders était aussi en tête des dons du secteur de la high-tech et des télécoms.
Oui, ce qui n'augure pas forcément d'une préférence de tous les milieux économiques. En tout cas, pour cette campagne, les crises sociales à guérir ne manqueront pas. La santé, il y a toujours 24 millions d'Américains qui ne sont pas couverts. L'éducation, vous entendiez Bradley Smith parler de la dette étudiante, 1,5 milliard de dollars pour 42 millions d'étudiants, la question du salaire minimum également. Le programme définitif du Parti démocrate ne sera adopté que lors de la convention du 13 et 16 juillet.
On passe au bref. Après les marchés financiers, les marchés pétroliers s'apprêtent à prendre des mesures d'urgence face au coronavirus. Réunion extraordinaire jeudi de l'OPEP+.
Oui, l'organisation qui regroupe l'OPEP et 10 pays non membres, précisément créée en 2016 pour réduire la production et enrayer la baisse des prix du baril, pourrait bien devoir renouveler ses efforts avec une diminution envisagée de 900 000 barils par jour dès jeudi, puisque les prix sont tombés au plus bas depuis un an. Le problème étant que cette fois, l'unité de l'organisation pourrait être ébranlée, puisque dans ces 900 000 barils, 400 000 seraient seulement réduits de manière volontaire. Or, la Russie, via Vladimir Poutine, a déjà prévenu qu'elle se satisfaisait des prix actuels.
Et dans le monde de la presse, c'est une agence historique qui disparaît en Australie.
Oui, AAP, Australia Associated Press, créée en 1935, l'unique agence de presse du continent, annonce qu'elle fermera en juin et licenciera une bonne partie de son personnel, non par faillite directe, puisqu'elle a fait un petit profit de 600 000 dollars américains l'année dernière, mais parce que plusieurs de ses investisseurs viennent de la lâcher faute de rentabilité. Tragique, dit son directeur général Bruce Davidson.
Et enfin en France, c'est un journal historique qui pourrait survivre, France Antilles.
Et oui, l'unique journal transversal Martinique, Guadeloupe, Guyane et ses 235 salariés qui étaient mis en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier. 114 d'entre eux pourraient continuer à travailler pour le même journal après une offre de reprise faite par Xavier Niel. Une reprise à 8 millions d'euros dont 3,5 viendraient de lui. L'homme d'affaires spécialisé dans le numérique veut développer le titre sur le web et dans l'événementiel, mais assure que la version papier restera, preuve donc que les écrits restent.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. se quitte avec Liane Lahavas, Bittersweet. Merci encore Philippe Moati et David Kella de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et un immense merci aux techniciens de France Bleu, au Mans, qui ont assuré ce duplex à la toute dernière minute. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, David Kella, L'économie du réel face au modèle trompeur, paru aux éditions de Bock Supérieur. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Alain de Recourt, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Adèle Cagar. Demain, on se plongera donc dans les réflexions sur le prix des penseurs du Moyen-Âge. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.